Martine et Marinette, merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Quel plaisir de vous retrouver de semaine en semaine.
Pour nous aussi.
Avec des invités qui sont absolument extraordinaires jusqu'à présent. Nous avons Marianne et Philippe. Bonjour tous les deux, merci d'être revenus. Vous commencez à connaître le chemin maintenant, Radio Présence. Boulevard Rémi Sempé à Lourdes, pas très loin, puisque vous habitez à Haussin. Voilà, pas Haussin, là où il y a les aéroports, mais à Haussin, un petit village de la vallée de Batte-sur-Guère derrière la colline du Béout, pour ceux qui sont un petit peu loin de chez nous et qui voudraient...
La montagne. La montagne.
Oh, la montagne, la montagne.
Ah oui,
la montagne.
Même.
On est à quoi, 400 mètres d'altitude. Philippe, on vous a un petit peu découvert la semaine dernière, ingénieur qui a tout plaqué pour devenir compteur. Voilà. Et puis carrément, complètement changé de vie à un moment.
Oui.
Et vous, Marianne, je le disais la semaine dernière en se quittant, vous avez travaillé dans le tourisme et puis après vous êtes parti travailler à l'éducation nationale. Vous étiez prof de quoi ?
J'étais professeur des écoles, maîtresse d'école.
Maîtresse d'école, d'accord, institutrice. Et là aussi vous avez arrêté un moment pour vous consacrer à un autre métier, une autre passion qui peut-être s'apparente un petit peu quand même à maîtresse d'école.
Ouais,
pas tout à fait, mais...
C'est vraiment une autre passion. Moi
ouais.
Je considère que c'est une autre façon de faire un petit peu la même chose, mais depuis le tout début. Même avec le tourisme. Quand je travaillais dans le tourisme, j'étais guide à l'étranger pour des touristes français.
Ouais.
Et quand je leur faisais visiter un lieu, j'étais toujours très frustrée de ne pas pouvoir vraiment leur expliquer tout et m'assurer qu'ils avaient compris. C'était surtout ça, me dire est-ce que vraiment ils ont bien compris. Après, je suis devenue prof. Donc là, j'avais mis l'accent sur... Là, c'est vraiment, j'avais le temps que les gens comprennent bien. Mais ma grosse frustration, c'est que je ne pouvais pas organiser autant de voyages et de sorties scolaires que ce que je voulais. Parce que je trouvais quand même qu'il y avait beaucoup de choses qu'on apprenait tellement mieux en étant sur place qu'en en parlant. Même si on a des beaux moyens avec les images, ça ne vaut jamais le vécu. Et là, je crois que j'essaie de rassembler les deux. Alors, quand on me demande mon métier, je suis un peu embêtée parce que c'est un métier... Je pense pas qu'on soit très nombreux à le faire. Je pense que je l'ai peut-être...
C'est la première fois que j'entendais.
Je l'ai peut-être inventé. Du coup, ça n'a pas de nom.
Alors, vous avez fait un mix, en fait, entre le tourisme et l'éducation. Comment on peut... c'est un petit peu ça. Vous avez...
C'est exactement ça.
Vous avez fait ce mix avec votre passé dans le tourisme, votre passé dans maîtresse d'école, institutrice. Et vous avez essayé de dire, voilà, comment des enfants qui viendront visiter un lieu, est-ce que vous êtes sûr que quand ils repartiront, ils ont bien compris? Parce que souvent, on s'adresse à des adultes et les enfants, on les laisse un petit peu de côté. Hein.
Voilà, il y a plusieurs choses. Il y a souvent dans les lieux qui sont visités par les enfants, soit on leur fait la même visite qu'aux adultes en oubliant que ce sont des enfants. Donc des guides vont sans problème dire, alors ça c'était au XVIIe siècle, sauf qu'un enfant normalement constitué avant qu'il ait 9-10 ans, XVIIe siècle, ça n'évoque rien pour lui. C'est un exemple un peu bêta, il y a des choses plus subtiles que ça, voilà. Soit on leur fait des visites enfants, ou alors pour le coup je trouve qu'on les prend un petit peu pour des imbéciles, c'est-à-dire qu'on leur explique plus rien du tout. Puisqu'ils sont enfants, ils savent pas, donc c'est pas la peine de leur apprendre, ce qui est complètement contraire à mes convictions et un peu à l'évidence aussi, je crois. Et donc moi, mon souhait, c'était de se dire, dans n'importe quel endroit, on peut toujours apprendre. Apprendre est toujours un plaisir, c'est naturel pour un enfant d'avoir envie d'apprendre et de comprendre. Donc comment on fait, qu'est-ce qu'on met en place dans des lieux ou sur des temps particuliers pour que les enfants soient occupés intelligemment, que ça les distrait et que ça les amuse, mais qu'en même temps, ça les édifie. Mmh. Voilà, c'était ça mon point de départ. Et j'en ai fait un métier qui n'est pas instit, donc, alors que c'est ça le métier normal, d'accompagner les enfants dans leurs apprentissages. En fait, moi, j'accompagne tous les gens qui ont des lieux qui se visitent, que ce soit des offices de tourisme, des sites touristiques, mais aussi des commerces qui savent que les enfants sont présents, sont là. Ah oui, je vois le français.
C'est comme ça que tu étais venue nous voir d'ailleurs par rapport au gîte.
Oui, c'est comme ça que je suis venue les voir. Il y a eu un exemple très précis d'un projet sur lequel je suis intervenue, même si je ne l'ai pas fait seule. C'est l'exemple des cuisinistes. Un grand cuisiniste suédois très connu qui ne fait pas que des cuisines, qui avait remarqué que lorsque les gens viennent choisir leur cuisine en magasin, c'est un rendez-vous qui est très long pour les parents. Ils viennent généralement en famille. Les enfants s'ennuient. Donc, c'est déjà dommageable pour les enfants parce qu'ils s'ennuient. Mais même eux, commercialement, ça se transforme parfois en vente perdue parce que les enfants s'excitent trop et du coup, les parents partent et on n'est jamais sûr qu'ils vont revenir. Et donc là, la préoccupation, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire aux enfants sur ce temps-là à l'intérieur d'un magasin de meubles qui soit intelligent, qui ne soit pas mercantile. Alors, c'est dans un magasin, donc c'est commercial. Ça, on peut pas... Mais qui ne soit pas mercantile, dont le sujet ne soit pas de dire « Dis à tes parents d'acheter des meubles, dis à tes parents d'acheter des meubles plus chers. » Donc, de quoi peut-on parler aux enfants et sous quelle forme à ce moment-là, alors que les parents sont occupés à choisir les meubles de cuisine.
Et voilà, à faire les plans, surtout. C'est ça
et
qui
à faire les plans, c'est très, très long. Apparemment, d'après ce que j'ai appris à cette occasion, apparemment, c'est un peu long aussi de se mettre d'accord sur les couleurs des meubles, parfois, dans les couples. Mais bon, ça, c'est exactement le problème du cuisiniste et pas le mien. Et moi, la question, c'est de dire, les enfants qui sont là, ils ont quel âge? Ils sont là combien de temps? Matériellement, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'il y a à disposition? À quoi on peut les occuper? Comment on fait pour que ce temps-là, qui pourrait être un temps d'attente, un temps perdu et un temps où même l'enfant peut devenir pénible pour les autres autour, comment on fait pour que ce soit un temps intéressant pour lui? Voilà, donc ça a donné lieu à la création d'un jeu qui est sur une appli dans ce cas-là, mais d'autres fois, je suis intervenue sur des jeux de cartes, d'autres fois sur des choses qui ne sont pas des jeux, mais des dispositifs de visite, des animations d'ateliers. Après, il n'y a pas de produit standard. Il n'y a pas de réponse clé en main parce que justement, c'est le clé en main qui pêche. Enfin, c'est quand on essaye de plaquer de façon absolument standard un dispositif à une situation alors qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à utiliser autour.
Donc le magasin de meubles, c'est bien sûr IKEA, on l'a sûrement bien sûr reconnu. Comment IKEA a été frappé à votre porte?
Alors IKEA n'a jamais frappé à ma porte.
D'accord.
À moi. Moi, je peux pas. Moi, ce que je fais, ça me prendrait. Vous voyez, là, déjà, même à vous qui me faites venir pour ça, c'est un peu long à expliquer. Donc, à des professionnels qui, a priori, ne savent pas qu'ils auraient peut-être besoin de mes compétences, ça serait impossible de les convaincre de me donner un rendez-vous juste pour les présenter. Donc, je travaille en association avec une société qui, elle, est beaucoup plus branchée com et marketing et qui, lorsqu'elle a besoin d'un apport ludopédagogique, fait appel à moi. Mais je travaille aussi en direct avec certaines structures. Ça peut être, par exemple, je vais reprendre Martine et Marinette, l'exemple de
qui avait des gîtes et qui louait des gîtes à Haussin, oui.
Oui, ben, quand des gens arrivent dans des gîtes, il y a toujours un temps. Enfin, ça, elle l'expliquerait beaucoup mieux que moi, mais c'est le temps de l'installation et le temps du rangement à la fin où les parents ont les gamins un peu dans les pattes. C'est pas le moment d'aller se promener, c'est pas le moment de s'en occuper, on sait pas quoi en faire. Et moi, là, ma proposition, c'est un dispositif. Alors, je vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais quand on est dans un gîte, généralement, par la fenêtre, on voit des choses. Dans le jardin, on voit des choses. Il y a des choses à apprendre, des choses à découvrir. Et il suffit de donner une autonomie aux enfants par rapport à ça, pour leur dire, tiens, t'as un petit parcours à l'intérieur du lieu qui te permet d'apprendre et de découvrir des choses. Et pendant ce temps, les parents sont disponibles pour ce qu'ils ont à faire parce que, je crois que tous ceux qui ont eu des enfants, 24-24, on ne peut pas. Il y a des moments, il y a d'autres choses à faire et on ne peut pas être tout le temps dans l'accompagnement, le jeu et la bienveillance. Il y a des moments, c'est le moment de faire le ménage, les valises. Et il faut que les enfants... Et je pense que les gens ont à cœur que les enfants soient occupés intelligemment et fassent autre chose que jouer à Candy Crush sur le téléphone de papa ou de maman.
C'est ça, c'est là où vient peut-être se mettre en opposition toutes les propositions qui sont faites sur les smartphones, les tablettes, qui pourraient peut-être avoir un côté... on joue, mais on n'apprend pas. C'est vrai que Candy Crush, on joue, on passe du temps, mais on n'apprend pas grand-chose.
Alors moi, tout ce que je fais sur tablette sont des choses qui incitent à regarder ce qu'on a autour de soi. C'est-à-dire que normalement, les applications que je conçois, les enfants ont les yeux plus souvent ailleurs que sur la tablette.
Voilà, c'est-à-dire que vous servez quand même de l'outil.
Ce n'est qu'un support et un outil. C'est un outil merveilleux. Je déteste quand les gens disent « Ah oui, mais ça, les enfants, à cause des tablettes, à cause d'Internet, attention, c'est absolument aussi merveilleux que d'avoir inventé l'écriture. C'est vraiment, d'après moi, une deuxième révolution dans l'humanité. Après, il faut savoir ce qu'on en fait. »
C'est comme tout.
Mais comme tout. Comme absolument tout.
Il y a des choses qui sont écrites et qui sont absolument affreuses. Hein.
Voilà. Exactement. Et on ne condamne pas l'écrit pour autant.
Voilà, exactement.
Tu pourrais intervenir auprès de beaucoup de couples. Qui ont des enfants et dont les parents
ont du mal à les cerner, à les cadrer.
Réfléchis-y. Je n'ai jamais pensé à ça.
Parce que ça, je peux te dire que nous, on l'a entendu.
Mais L'idée de départ, en fait, ne venait... Enfin, c'est vraiment un outil, parce que c'était... c'est vraiment comme un outil que je l'ai vu dans... Enfin, je sais pas, je crains d'être trop longue, mais... En fait, ce qui s'est passé, c'est lorsque j'étais maîtresse, j'ai accompagné un voyage scolaire avec une classe chargée. J'avais 30 élèves de CM1 avec moi. Et on a eu un retard de train. On s'est trouvé coincé avec 6 heures d'attente dans un hall de gare à Paris. Pas trop le droit de sortir aux alentours de la gare, parce que c'était dans les années où il y avait eu des événements liés au terrorisme, etc., où donc on n'était pas censé se promener dans les rues sans avoir trop... Puis improviser une visite autour d'une gare à Paris, c'est quand même pas non plus très simple. Et du coup, très naturellement, et pour occuper mes élèves, j'ai fait plein de jeux, de devinettes sur ce qu'on voyait, sur ce qu'on voyait au mur, sur le tableau d'affichage, bon, ils étaient en CM1 et j'étais la maîtresse, donc des calculs de durée, des calculs de distance, mais il y avait aussi des œuvres d'art où je leur demandais de repérer des choses. Il y avait un pavage au sol qui constituait un damier, donc on a fait un jeu de dames géants où on était les pions. Mais bon, j'avais quand même 30 gamins seuls à occuper pendant 6 heures, en se disant, voilà, moi, ils devaient être en sécurité, ils devaient perdre le moins possible leur temps, ne pas s'impatienter et ne pas déranger les autres usagers du hall de gare, parce qu'on n'était pas les seuls à avoir un retard. Et en fait, quand on est arrivé, bon, voilà, le retard s'est solvé, on est arrivé à bon port. Et quand les enfants ont fait leur carnet de voyage à la fin, en fait, il y avait plein de choses. C'était dans ces jeux-là que je leur en avais parlé. Bon, je parlais quand même du lieu vers lequel on allait. On se dirigeait vers l'Alsace. Et énormément de choses sont ressorties alors que je ne me l'étais même pas fixée comme objectif. Oui. Moi, je les occupais. Oui.
Ça s'est fait spontanément, quoi.
Et du coup, les parents m'ont dit, mais c'est incroyable, tout ce qu'ils ont appris juste sur un temps d'attente dans le hall de gare. Et moi, c'est incroyable qui m'a étonnée de la part des parents. Je leur dis, mais c'est pas du tout incroyable. C'est complètement normal.
On prend peut-être pas le temps, nos parents, ou on n'a peut-être pas non plus, pour certains, la culture.
Alors voilà, il y a deux choses. Les parents n'ont pas le temps et ils ne savent pas forcément faire. Ouais. Ils ne savent pas forcément tirer parti du petit détail qui est quelque part. Ou alors, ils attirent l'attention sur quelque chose, mais ils se trompent de choses. Moi, j'ai assisté dans une abbaye cistercienne qui n'est pas très, très loin d'ici, des parents qui voulaient expliquer quelque chose à un enfant qui avait 7 ans. Et effectivement, cette chose faisait la richesse du lieu, mais c'était incompréhensible pour un enfant de 7 ans. Et ils auraient peut-être pu simplement se focaliser sur le fait que les statues étaient en pierre, que le bâtiment lui-même avait de la brique, comment c'est fabriqué, comment c'est fait, plutôt que rentrer directement dans ce qui différencie une abbaye cistercienne d'une autre abbaye. Enfin, je pense qu'à part quelques enfants dont ça serait un peu une manie, à 7 ans, à mon avis, voilà. Et je me suis dit, mais c'est dommage, parce que moi, je sais faire ça. Comment je pourrais faire pour que tous les parents aient accès à ça? Et en fait, j'avais mon téléphone à portée de main. Et je me suis dit, voilà, c'est ça le moyen. C'est des applis, des bouquins, des dispositifs de jeu quand il y a des lieux. Voilà. Mais entre ça qui s'est passé en 2012 et puis la réalisation en 2018, il a fallu beaucoup d'étapes.
Et bien, on le découvrira avec vous dès la semaine prochaine. Toutes ces étapes pour aujourd'hui, que vous soyez avec nous dans... ce studio. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Et merci.